Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
C'est donc la fin d'un suspense, que disent un suspense d'un faux suspense qui aura duré quelques semaines. Michel Platini a donc officialisé aujourd'hui sa candidature à la tête de la FIFA. On en parle avec vous, Dorothée Balzan, bonsoir.
Bonsoir David.
Vous êtes spécialiste du sport business, donc à la rédaction de BFM Business. Alors donc voilà, je disais vrai, faux suspense. Enfin, c'est à peu près peu de doute sur la candidature de Michel Platini. Elle a été officialisée aujourd'hui. Quelles sont ses chances? On dit qu'il a à peu près toutes les chances, que tout est ouvert. Il y a forcément, c'est forcément un peu plus complexe que ça.
Bah, c'est pas tellement plus complexe que ça, en fait. Il y avait assez peu de suspense sur sa candidature. Il y en a, en tout cas aujourd'hui, tout aussi peu sur l'issue du vote. En fait, son meilleur atout aujourd'hui, c'est qu'il y a personne en face, finalement.
Même s'il y a des candidats déclarés.
Il y a deux anciennes grandes stars du foot. Il y a le Brésilien Zico et l'Argentin Diego Maradona. Bon, on va pas les mettre tout à fait tous les deux sur le même plan. Autant le Brésilien Zico, il est à peu près crédible. Le problème, c'est qu'il s'est déclaré un peu trop tard. Il a aujourd'hui quasiment aucun soutien. Donc, d'ici le 26 février, on voit mal comment il va avoir le temps de réunir suffisamment de soutien pour avoir la moindre chance. La candidature de Diego Maradona, je ne sais même pas si c'est la peine d'en parler.
Ça fait en tout cas parler dans les journaux argentins.
Toutes ces casseroles, etc. Voilà, on est plus dans la blague. Même si lui, il a dit « Attention, FIFA, j'arrive ». Je pense que personne ne l'attend. Et puis sinon, il y en a un autre aussi. Lui, c'est un peu l'inconnu au bataillon. C'est le président de la fédération libyenne de foot. Il a le soutien de l'Afrique, mais on voit mal comment, là aussi, il pourrait réunir au-delà du continent africain.
En gros, c'est quoi? Il y a six fédérations, c'est ça?
Et il y a six confédérations.
Chaque confédération amène ses voix?
Chaque confédération amène ses voix. En tout, il y a 209 membres qui votent. Au départ, il faut 2/3. Si jamais il y a un deuxième tour, il faut gagner simplement avec la moitié. Et là, il faut savoir que Platini, il a déjà reçu le soutien en coulisses de 4 des 6 confédérations. Donc, on voit mal comment ça pourrait se retourner contre lui. Ça pourrait lui échapper. Oui. D'ailleurs, il s'était un peu assuré de tout ça. Avant de se présenter, il n'y va pas pour faire de la figuration, ça c'est sûr.
Il y a déjà eu des réactions à cette annonce?
Alors il y a eu une réaction qui a d'ailleurs été assez étonnante, c'est celle du candidat de la dernière élection contre Sepp Blatter, celle qui a finalement été plus ou moins annulée, c'est celle du prince jordanien, le prince Ali, que Michel Platini avait largement soutenu en tant que candidat anti-Blatter et qui là a réagi, c'est le premier à avoir réagi et contre toute attente, eh bien, il ne va pas du tout soutenir Michel Platini. Alors lui, il s'est pas encore déclaré, on va voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il pointe du doigt le fait que Michel Platini, finalement, fait lui aussi un petit peu partie du système et il a déclaré dans un communiqué « La culture des arrangements en coulisses, en sous-main, doit prendre fin ». Donc voilà, il le met un peu dans le même lot de Sepp Blatter, de la FIFA corrompue, de tout ça.
Quelle est l'image de Platini au final? Est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui réforme, ce qu'il a fait, hein, me semble-t-il, vous allez me le confirmer, ce qu'il a fait du côté de l'UEFA, ou est-ce qu'à l'inverse, il a l'image de quelqu'un qui a plus ou moins les pieds sur le frein? Et là, je pense en l'occurrence à la surveillance vidéo.
Alors c'est vrai, sur la surveillance vidéo, il a clairement le pied sur le frein. Il dit que le football n'en a pas besoin. Il a lâché un tout petit peu de lest sur la question du hors-jeu, sur lequel éventuellement, avec 4 peut-être, il a dit qu'on pourrait envisager la possibilité 2. Mais bon, de toute façon, je pense pas que ce soit la question de l'arbitrage vidéo aujourd'hui qui va décider de quel candidat va l'emporter en février prochain. Globalement, il a plutôt une image de réformateur. En tout cas, il a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'UEFA, son grand projet, alors c'est pas évident, c'est un projet financier, c'est de définanciariser ou en tout cas de faire en sorte que l'argent soit un peu moins roi dans le monde du foot. On sait qu'il a mis en place les règles du fair play financier, donc ces règles qui obligent un club de foot à ne pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Globalement, on peut dire quand même que c'est plutôt un succès. En tout cas, les clubs s'y tiennent. Ceux qui ont eu des sanctions ont respecté les sanctions sans vraiment moufter. Donc là-dessus, d'un certain point de vue, c'est un succès. En même temps,
c'est pas ça qui empêche le foot d'avoir de l'argent.
Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football. On l'a vu encore ces derniers temps avec l'attribution des droits télé de la Première Ligue, donc du championnat anglais. C'est des montants qui sont absolument ahurissants. Plus de 2 milliards d'euros par an pour les droits télé de la Première Ligue. C'est des montants qui sont des records absolument absolus. On n'aurait, je pense, jamais pu imaginer des tels montants. Et là, on est en train de les atteindre. Donc, effectivement, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le foot, en tout cas en Europe.
Alors, il est présenté, sans mauvais jeu de mots, un peu comme le Messi hein, pour la FIFA. J'imagine qu'il a quand même quelques casseroles, comme on dit. Et notamment, évidemment, l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Même si, et je relisais ses déclarations tout à l'heure, hein, il assume tout à fait son choix.
Il assume complètement son choix et il l'assume depuis le début. Dès le début, il a dit « Je vais jouer la carte de la transparence. Moi, je vous le dis clairement, j'ai voté pour le Qatar. » Et il affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu son talon d'Achille aujourd'hui, parce que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar est dans le collimateur de la justice et fait clairement partie de l'enquête qui est en cours sur quelles ont été les conditions de cette attribution. On imagine que s'il y va, c'est qu'il est à peu près sûr de lui. Mais son image, globalement, il a une image de monsieur propre. Là-dessus, un petit peu moins.
Le vote, ce sera pour ?
Le 26 février.
Eh bien voilà, on suivra ça. Merci beaucoup, Dorothée. Dorothée Balzan, donc spécialiste du sport business sur BFM Business. Vous restez avec nous. On marque une toute petite respiration et puis tout autre sujet juste après. Mais c'est également ça, le grand journal. On s'intéresse donc à cet accord en vue entre EDF et Areva. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
C'est donc un accord à l'arraché qui a été trouvé hier entre EDF et Areva. Un accord qui devrait permettre de sauver l'emblématique acteur du nucléaire français. Bonsoir Christian Saint-Etienne.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, de nous accorder quelques minutes de votre temps, économiste et professeur d'économie au CNAM. Je disais donc accord à l'arraché. On devrait connaître les termes précis de cet accord demain. Normalement, là, les deux groupes sont censés l'examiner ce soir. Ce que l'on sait, c'est qu'Areva va se retrouver en gros scindé en deux. D'un côté, la construction et la maintenance des réacteurs, et puis de l'autre, donc la fourniture de combustible et le retraitement. C'est la première partie, évidemment, qui va être reprise par EDF. On parle d'un montant avoisinant 2,7 milliards d'euros. Avant de rentrer précisément dans le détail de tout cela, est-ce qu'un échec à cet accord, parce qu'on nous dit que ça a été extrêmement compliqué, extrêmement tendu, est-ce qu'un échec était envisageable ?
En fait, il n'y avait pas d'alternative. Le groupe Areva est en très très grande difficulté. Il est engagé, comme on le sait, en Finlande sur un réacteur qui a été vendu pour 3 milliards d'euros, garanti à ce prix, et qui va coûter 8 milliards d'euros. C'est un gouffre absolu qui a failli tuer le groupe Areva. Donc, Areva était au bord du démantèlement et de la faillite. On aurait pu imaginer une opération avec un japonais, mais il s'agit ici de technologies extrêmement avancées. Et par ailleurs, il y a eu évidemment, comme on le sait, le problème d'un réacteur qui a été submergé au Japon, et on s'est rendu compte finalement que la technologie française est certainement dans les domaines des réacteurs la meilleure du monde, et que donc c'était pas forcément le meilleur moyen de sauver Areva en le mariant avec un japonais. Et d'une certaine façon aussi, si la France veut garder les technologies qu'elle a développées, il fallait plutôt trouver un acteur national. Il n'y en avait pas d'autre en dehors d'EDF. Donc, d'une certaine façon, ils étaient obligés d'arriver à une conclusion positive, surtout que le gouvernement et le président de la République l'exigeaient ainsi.
On parle donc de 2,7 milliards d'euros, semble-t-il. Encore une fois, EDF devrait en prendre 75%. Faut tout de même pas oublier, Christian Saint-Etienne, que la santé financière, l'économie d'EDF reste extrêmement fragile.
Alors en fait, la santé d'EDF est fragile parce que pour des raisons d'indice de prix, les gouvernements français successifs, mais notamment l'actuel, refusent les augmentations de tarifs d'EDF qui sont recommandées pourtant par des groupes d'experts et qui, par exemple, récemment demandé une hausse de 8% pour permettre une intégration de l'échéancier de prix et des niveaux de prix d'EDF sur les marchés européens. Le gouvernement a refusé cette hausse et une hausse de 2,5% va intervenir. Donc il est clair que EDF, depuis 7-8 ans, a subi des moindres revalorisations du prix de l'électricité que ce qui était souhaitable. C'est surtout ça qui met EDF en difficulté, parce que par ailleurs, c'est un groupe extrêmement puissant, extrêmement intégré, très respecté dans le monde. Il faut savoir que aussi bien au Japon, en Allemagne qu'en Amérique, EDF est considéré comme un acteur maîtrisant bien ses technologies et qui a été très fort dans l'optimisation des réseaux. Mmh. Et donc, EDF est un acteur naturel pour permettre un adossement réussi de la partie réacteur d'Areva, même si vous avez raison, EDF aurait besoin d'un petit booster sur les prix de l'électricité pour améliorer son bilan, même si le bilan s'est amélioré. L'endettement d'EDF a quand même pas mal baissé depuis 5 ans.
On va peut-être rappeler quand même la genèse de cette histoire. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à une quasi faillite de la part d'Areva?
Alors, il y a deux problèmes. C'est un vieux débat qui date d'une trentaine d'années. Fallait-il mettre ensemble la partie combustible de l'ancienne Cogema et la partie réacteur de Framatome? Déjà, quand on a créé Areva, il y avait des personnes qui se sont opposées à cette fusion en disant qu'on mariait la carpe et le lapin. On doit observer qu'il n'y a pas eu tellement de synergie entre l'ex-Framatome et l'ex-Cogema. Donc, il y avait depuis le début énormément d'interrogations sur le modèle économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a eu un défaut de maîtrise d'un certain nombre d'opérations de gestion externe, notamment l'acquisition de mines à un prix délirant. Des mines qui ont été achetées par l'ancienne présidente pour 2,5 milliards d'euros et qui ont été ramenées dans les comptes autour de 500 millions, donc avec une énorme perte au passage. Et puis, bien sûr, il y a ce fameux chantier en Finlande qui aura coûté 5 milliards de provisions au groupe Areva. Donc c'est une succession d'erreurs de management sur la base d'un business model qui était fragile. Et donc on se retrouve dans la combinaison des deux a été fatale au groupe. Ceci étant, les technologies sur les réacteurs qui surtout... Alors il y a un point qui est toujours extrêmement difficile à expliquer et à comprendre. C'est que on n'a pas construit de réacteurs pendant très longtemps et les nouveaux réacteurs que Areva construit, qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus sûrs, l'entreprise doit réapprendre les technologies qu'elle avait perdues. Il y a une certaine maîtrise technologique qu'elle avait gagnée dans les années 70-80 lorsqu'on avait construit une cinquantaine de réacteurs qui ont été maîtrises qui a été perdue. Et donc, avec les nouveaux réacteurs, il faut réapprendre à optimiser à la fois le génie civil, tout ce qui est autour du réacteur, la construction des cuves qui exige des prouesses en métallurgie, et puis il faut apprendre à maîtriser l'optimisation des systèmes, tous les systèmes de sécurité. Mmh. Donc Areva, d'une certaine façon, une partie d'ailleurs de l'échec du projet en Finlande, c'est que ce projet a servi de laboratoire. Bon. Donc une partie des 5 milliards de pertes sont dues au fait à la nécessité pour le constructeur de réapprendre la maîtrise des chantiers d'une telle complexité. Bon, aujourd'hui donc on se retrouve dans une situation où si tout va bien, on peut considérer que, bien sûr, c'est un pari stratégique, mais si tout va bien, en rachetant la partie construction de réacteurs, en espérant que les équipes de cette partie sont montées en puissance en termes de maîtrise des technologies, peut-être qu'on peut dire, on le saura dans 3, 4, 5 ans, que EDF fait une bonne affaire parce que
j'allais vous demander qui sort gagnant de cette histoire, c'est EDF.
Je pense que c'est EDF qui s'en tire le mieux. C'est
Areva qui reste. Même si EDF proposait 2 milliards d'euros initialement.
Oui, mais c'est une goutte d'eau par rapport au bilan et à la puissance d'EDF. D'autant plus qu'EDF va négocier une garantie sur le chantier de Finlande, de telle sorte que ça ne lui coûtera rien. Donc, au fond, EDF fait un pari stratégique, mais EDF rachète une entreprise qui a réamorcé la remontée sur sa courbe d'expérience, comme disent les spécialistes, et d'apprentissage pour apprendre à nouveau à maîtriser les technologies. Et donc, il est quand même vraisemblable que de nouveaux réacteurs vont être construits, parce que c'est la meilleure façon de lutter contre le réchauffement climatique, puisque malgré tout, les nouvelles technologies, le photovoltaïque notamment, progressent, certes, mais n'est pas au niveau de sécurité encore souhaitable. Donc, il se peut que EDF fasse une bonne affaire. En revanche, Areva n'est absolument pas tiré d'affaire. Areva a un besoin de refinancement qui est aujourd'hui estimé à 4 à 5 milliards d'euros quand le gouvernement est prêt à lâcher 1 à 2. Donc il y a un déficit de recapitalisation de 3 milliards qui correspond d'ailleurs en grande partie à la perte sur le chantier de Finlande.
Des têtes pourraient tomber. On sait que les deux patrons ne s'entendent absolument pas. En tout cas, c'est ce que dit la presse.
Bon, il est vraisemblable que le président actuel, Philippe Barrin, l'ancien président de Peugeot, une fois qu'il aura mené à bien la fusion, s'en ira. Le patron opérationnel, il est difficile de dire s'il survivra, mais de toute façon, c'est EDF qui reprend la maîtrise complète. On a reproché notamment à Areva, dans le dossier de Finlande, une insuffisance dans sa division d'ingénierie, qui est le point fort d'EDF. Donc on peut penser que la fusion des deux groupes sur la partie réacteur va reconstituer un acteur français extrêmement puissant au plan international.
Et ce sera ma dernière question, Christian Saint-Etienne. Est-ce que sur un plan commercial ou concurrentiel, il peut y avoir des choses qui puissent faire capoter le projet? Je parle évidemment de la part des concurrents qui pourraient déposer des recours éventuels.
Je pense qu'il peut y avoir des recours dans un second temps sur le niveau de recapitalisation du groupe, mais sur la vente d'Areva, construction de réacteurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait des recours. Si le prix est correct, correspond aux actifs et aux risques, il n'y a pas de raison qu'il y ait des recours à ce niveau-là. En revanche, ce qui va être beaucoup plus complexe à négocier, c'est le niveau de recapitalisation, parce qu'il est vraisemblable que la Commission européenne mettra son nez dans ce dossier à ce moment-là.
Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, pour vos explications ce soir. Merci. Donc, Christian Saint-Etienne, économiste et professeur d'économie au CNAM. La suite de ce dossier, évidemment, eh bien, ce sera demain. Vous restez avec nous sur BFM Business. À suivre dans un instant, un tout autre sujet, c'est la période des résultats d'entreprise. Nous reviendrons sur ceux de Nexans qui a publié ces dernières heures. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal qui s'intéresse donc ce soir au numéro 2 mondial du câble, en l'occurrence Nexans. Nous sommes avec son directeur général Arnaud Poupard-Lafarge. Vous avez donc publié des résultats semestriels ce matin qui font état notamment d'un chiffre d'affaires en progression, à progression de 1,7% à 3,2 milliards d'euros. On se souvient qu'en 2014, vous aviez une perte nette qui avoisinait les 120 millions d'euros, 130 millions d'euros, 330 millions d'euros, 333 pour être très précis, en 2013. Il y a un plan qui a été annoncé en juin dernier pour économiser les frais fixes, comme on dit. Est-ce que ça veut dire que ce plan, peut-être un peu tôt, mais ce plan de juin commence tout de même à porter ses fruits?
Bonjour. Si vous permettez, avant d'en venir à nos résultats, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs ce que fait Nexans.
Donc Nexans. On va y venir, vous inquiétez pas. On va largement en parler. On a quasiment 20 minutes pour se faire.
Alors sur les résultats, donc les résultats que nous avons publiés ce matin montre les premiers effets donc des actions que nous avons prises il y a maintenant un an pour améliorer et redresser les comptes de l'entreprise. Mmh. Donc on est satisfait dans un environnement qui n'a pas été facile, dans lequel effectivement nous avons donc des ventes qui sont à peu près plates en termes de croissance. On a réussi à améliorer notre profitabilité de l'ordre de 20%, ce qui est une belle performance. Et dans le même temps, on a réussi aussi à gérer notre cash de façon satisfaisante afin de ne pas augmenter l'endettement du groupe.
Ça veut dire, alors je sais que vous parlez quasiment pas ou quasiment plus en l'occurrence des objectifs que vous fixez, mais est-ce que ça veut dire que là aujourd'hui vous êtes dans les clous de ce que vous étiez fixé?
Voilà, ça veut dire que ce qu'on a montré, je pense que c'est important aussi du point de vue de la confiance dans l'entreprise et de la confiance dans le personnel d'entreprise à réaliser les actions qui sont programmées. On avait annoncé un plan, d'abord au mois d'octobre, puis confirmé au mois de février. Et là, ce qu'on montre, c'est que sur 6 mois, effectivement, on a été capable de faire exactement ce qu'on a dit et d'en obtenir les résultats. Et je pense que ça crédibilise fortement le discours de l'entreprise pour montrer que dans la suite, on va aussi continuer à délivrer les plans qu'on a annoncés.
Vous pensez, même si ça n'a pas été le cas aujourd'hui, que ces résultats sont de nature à rassurer les investisseurs, notamment ?
Oui, enfin aujourd'hui, je pense qu'on a fait plus 3,5 en bourse, donc c'est pas forcément.
Ah, c'est pas oui, c'est pas forcément négatif. C'est le chiffre que j'avais vu en l'occurrence.
C'est pas forcément négatif, mais sans regarder le chiffre spécifiquement du jour, effectivement, les investisseurs nous ont témoigné de la confiance, d'abord dans la qualité de la relation qu'on a avec eux. Ensuite, notre titre a pris près de plus de 40% depuis le début de l'année. Donc, je pense qu'effectivement, on a gagné en crédibilité. On montre aujourd'hui des résultats qui sont partiels. Je ne cache pas, il y a encore beaucoup de travail à faire qui est devant nous, dont en particulier donc les plans, on reviendra dessus, et les projets qu'on a annoncés récemment. Mais on est vraiment content de ce qu'on a fait sur 6 mois et on veut continuer comme ça.
Il n'y aura plus de pertes à la fin de l'année, sans rentrer vraiment dans le détail, parce qu'encore une fois, je sais que vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus, mais vous serez au moins à l'équilibre à la fin de l'année?
Ce qu'on peut voir déjà, c'est que d'ores et déjà, nos opérations sont bénéficiaires. Donc, le flux quotidien des commandes qu'on prend, des livraisons qu'on fait à nos clients, les retours de clients nous permettent de gagner de l'argent.
Mais il reste encore 6 mois.
Alors, il reste encore 6 mois. Et effectivement, la perte qu'on a annoncée ici, c'est des provisions qu'on a prises pour payer des charges de restructuration, donc qui sont hors exploitation de notre business quotidien. Donc aujourd'hui, on peut dire que de façon opérationnelle, Nexans est revenu dans le vert.
Alors, ces plans, justement, que vous reste-t-il encore aujourd'hui concrètement à faire? Quel est sur quels axes est-ce que vous allez accentuer les efforts, peut-être?
Écoutez, ce qui est important pour moi, c'est de construire un avenir durable pour Nexans. On en reparlera plus tard, mais Nexans a un rôle crucial à jouer dans l'évolution de la société à venir, dans le développement du tout électrique dans les villes de demain. Et il faut qu'on ait un Nexans fort pour ça. Historiquement, on a une présence en Europe de l'Ouest qui est forte. On a encore 35 usines en Europe de l'Ouest, dont une dizaine en France. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on préserve en permanence la compétitivité de notre actif industriel en France et en Europe de l'Ouest. Et le plan qu'on a proposé, donc les projets qui sont en cours de discussion actuellement avec nos représentations syndicales, ce sont des projets qui visent à améliorer la productivité et la compétitivité de nos usines en Europe de l'Ouest pour pouvoir assurer l'avenir de cette présence. On a aujourd'hui une compétition qui est très internationale. On a des compétiteurs qui sont implantés soit en Europe de l'Est, soit dans les pays du Maghreb, soit dans d'autres zones où ils ont accès à des facteurs de coûts moins chers qu'en Europe de l'Ouest. Mais nous, on veut arriver à défendre notre implantation industrielle en France et en Europe de l'Ouest.
Vous avez deux pays encore, je crois, aujourd'hui qui vous posent particulièrement problème. C'est le Brésil et l'Australie. Que se passe-t-il sur ces deux pays ?
Alors effectivement, dans le paysage général, on a indiqué qu'on a encore deux facteurs de perte, qui sont le Brésil. Donc dans notre activité, donc une grande partie de nos clients sont donc les grandes sociétés qui distribuent l'électricité, pour environ un tiers, les grandes sociétés de construction pour environ un tiers, et puis des clients industriels, on reviendra dessus. Pour ces deux premiers tiers, les grandes sociétés distributrices d'électricité et les grandes sociétés de construction, beaucoup dépendent de commandes publiques de l'État. Et aujourd'hui, les difficultés politico-économiques avec les scandales, alors Petrobras entre autres, mais pas uniquement, et puis ont paralysé un peu l'action publique. Donc les grands projets financés publiquement sont à l'arrêt. Et donc nos clients sont pénalisés, puisque nos clients n'ont plus l'avancement des projets qui dépendent de la force publique. Et nous, en tant que fournisseurs de nos clients, on perd des opportunités de vente et effectivement on voit des chiffres d'affaires qui sont en retrait important.
Ce sont des pays qui peuvent vous handicaper durablement?
Et c'est des pays sur lesquels il va falloir qu'on s'adapte. Donc la question qui peut être posée, c'est effectivement combien de temps va mettre le Brésil à sortir de cette crise et à reprendre la croissance. Le Brésil, c'est quand même un très grand pays. Le Brésil, c'est 180 millions d'habitants. Le Brésil, c'est 2300 milliards de PIB. Enfin, on a des grosses économies donc qui ne demandent qu'à redémarrer. Alors après, est-ce que ça, la situation actuelle va durer 6 mois, va durer 12 mois, je ne sais pas vous dire, mais ce qui est, c'est que pour des acteurs comme nous, ce qui est important, c'est évidemment de prendre les actions qu'il faut pour que pendant cette période-là, on puisse limiter les pertes et après reprendre une activité croissante.
Il y a eu de bonnes surprises à l'inverse. Est-ce que par exemple, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais l'Europe est une agréable surprise ?
Alors, dans les bonnes surprises qu'on a, on a deux activités phares qui ont vraiment très très bien marché. Alors la première, je vois qu'il y a des bonnes images, mais c'est notre activité sous-marine.
Haute tension sous-marine.
Donc haute tension sous-marine, on a eu des très bons résultats, à la fois pour aujourd'hui et pour demain, c'est-à-dire qu'à la fois on a livré des très grands chantiers, et donc on a eu une activité de facturation qui a été très 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 bonne, et puis alors on a eu une activité commerciale de prise de commande pour le futur qui atteint des niveaux jamais atteints. On a aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros en carnet de commandes de grands projets sous-marins. Et parmi ceux-là, donc, alors pour 850 millions d'euros, les deux projets phares qui sont la liaison de la Norvège avec l'Allemagne et la liaison de la Norvège avec l'Écosse. Ces deux projets sont des projets phares de la transition énergétique en Europe. Hein. Et je pense que là, on montre en quoi justement Nexans apporte dans le sujet général de la transition énergétique en Europe une contribution et une technologie qui est absolument nécessaire. Il va falloir faire des grandes interconnexions, les grands champs éoliens qui sont dans le nord de l'Angleterre, les grands champs éoliens qui sont dans le nord de l'Allemagne, on les relie aux barrages hydrauliques de la Norvège. Et donc quand il y a du vent et qu'il n'y a pas de demande, on peut envoyer l'électricité dans les barrages en Norvège. Et quand il y a de la demande mais il n'y a pas de vent, on peut renvoyer l'électricité chez le consommateur anglais ou chez le consommateur allemand.
Bon, ça, c'est une technologie évidemment extrêmement poussée. Vous êtes également, par exemple, dans les voitures, tout simplement.
Oui.
Ce qui nous concerne tous les jours, Nexans, c'est la voiture.
Alors, Nexans, c'est la voiture. Donc, on a depuis très longtemps un partenariat très poussé avec, en fait, les constructeurs allemands. Donc, c'est notre ingénierie allemande qui est à la manœuvre, là. Et donc, pour ceux d'entre vous qui conduisent aujourd'hui une voiture allemande, tout le câblage du moteur, donc qui est le câblage le plus technique, tout ce qui fait la sécurité de la conduite, tout ce qui fait la performance de la conduite des voitures allemandes haut de gamme, tout ça est fait grâce à des câbles Nexans.
Et puis, vous marchez également sur un troisième pied, câbles et système LAN, c'est bien ça ?
Oui, alors dans la construction, donc dans un bâtiment comme celui-ci, en fait on amène tout, c'est-à-dire qu'on vous amène toute la puissance, donc toutes les lumières qui sont ici au plafond dans votre studio arrivent avec de l'électricité qui arrive avec des câbles Nexans, et puis toutes les données dont vous avez besoin, donc vous êtes en train de regarder votre ordinateur, il y a du câble Nexans qui a apporté les données, sur les télés il y a du câble Nexans qui a apporté le signal télé, voilà, donc on distribue dans les bâtiments à l'intérieur et on distribue dans la cité, c'est-à-dire en intercité, tout ce qui est électricité et tout ce qui est données. Et effectivement, sur les données, on a des systèmes qui sont très complets. On peut faire le bâtiment entier avec le serveur informatique, avec tout le câblage dans le bâtiment, avec la distribution dans tous les ordinateurs. Par exemple, cette année, on a pris la construction du plus gros hôpital au Danemark, donc un immense hôpital à côté de Copenhague. Et sur lequel, donc, on a tous les serveurs informatiques, les liaisons informatiques, y compris avec les machines médicales et les liaisons avec toutes les chambres des clients.
Donc, très spécifique.
C'est très spécifique. Et puis, ça a besoin d'une fiabilité et d'une sécurité absolue. Parce que vous pouvez pas avoir une...
Évidemment. Qui, bon. Mais du coup, quand on dit ça, en fait, on se rend compte que Nexans, c'est donc de la très haute technologie, évidemment, oui, avec les sous-marins. Mais vous êtes également tributaire de la construction. Vous êtes, oui, tributaire du secteur de l'automobile. Oui. Vous êtes tributaire de deux secteurs qui ont été à la peine. Alors, un encore aujourd'hui qui est la construction, le bâtiment. Ouais. Le secteur de l'automobile, les choses semblent s'arranger. Mais voilà, vous êtes vraiment tributaire de ces deux secteurs-là.
Alors, en termes de grosse masse, on a les grands distributeurs d'électricité. Donc, parce qu'il y a les grands projets, mais il y a besoin de reconstruire les réseaux. Alors, sur les grands distributeurs d'électricité, leur grand défi aujourd'hui, c'est l'intégration des renouvelables. Alors, vous vous promenez dans la campagne, vous voyez des éoliennes partout. Ce que vous savez sans doute pas, c'est que la plupart des éoliennes que vous voyez sont pas connectées au réseau. Parce qu'il y a un besoin d'intégration dans les réseaux. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il faut reconstruire les réseaux de distribution pour que l'électricité puisse aller des éoliennes jusqu'à votre maison. Et comme on sait pas où est-ce qu'il y aura du vent demain matin, il faut non seulement connecter l'éolienne à l'ouest, mais aussi l'éolienne à l'est, etc. Donc, il y a des réseaux à reconstruire. Et donc, on est engagé dans cette démarche. Et là, on a un besoin de coopération très fort entre les grands distributeurs d'électricité, les propriétaires des réseaux et les fournisseurs pour pouvoir faire cette reconstruction. Donc ça, c'est un premier domaine de l'industrie. Après, il y a toute la construction et toute l'évolution de la cité. Et dans l'évolution de la cité,
j'allais y venir. Parce que, ouais, en fait, il y a peut-être eu des inquiétudes à court terme
oui.
sur Nexans. À long terme, a priori, alors ce sont des chiffres que j'ai trouvés, hein, mais vous êtes porté par une urbanisation en hausse de 40% d'ici 2030 et par une croissance de 20% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'à long terme, il n'y a pas vraiment de souci à se faire sur Nexans.
À long terme, c'est top. À long terme, ça veut dire qu'on va participer. Non, mais on va participer à tout ce développement. Et donc, en plus, les cités vont devoir devenir 100% électriques, parce que pour des questions de pollution. Et c'est, donc, on va devoir.
Et vous êtes au cœur de ce que sera la cité de demain, en fait.
On est au cœur de ce que sera la cité de demain. Donc, on participe. Il y a des expériences qui sont en cours. En France aujourd'hui, entre EDF ou Engie ou d'autres grandes sociétés, il y a des tas d'expériences. De quartiers autonomes. La génération d'électricité, demain, ça sera les immeubles génèrent eux-mêmes une partie de leur électricité, puis ils l'échangent avec le voisin. Dans la journée, les bureaux en donnent au logement. La nuit, ça peut se renverser selon que les ordinateurs tournent ou pas, etc. Et donc, il faut reconcevoir tous ces réseaux. Et donc, on est au cœur de ça pour pouvoir redistribuer à la fois toute l'énergie. Et puis, alors, les demandes en données, ça explose parce que maintenant, tout le monde veut avoir son téléphone, sa tablette, son ordinateur, tout doit être
connecté. Mais tout ça, c'est prêt ou on en est encore au balbutiement? Chez vous, en tout cas, évidemment.
Pour tout ça, on a des solutions techniques. On en est au balbutiement en termes de création de l'éco-environnement parce qu'il n'y a pas encore d'environnement économique. Il n'y a pas forcément. Je vous dis pourquoi est-ce que, par exemple, les renouvelables ne sont pas tous connectés en France si vous avez une file d'attente assez longue. Parce qu'il n'y a pas forcément le modèle économique pour savoir qui va payer, comment ça va être financé. Il n'y a pas aussi, il y a un point, c'est qu'il n'y a pas forcément la stabilité réglementaire. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'il faudrait une vraie Europe de l'énergie avec une vraie stabilité réglementaire pour que, sur les 40 ans qui viennent, on puisse dire, on fait un investissement. Quand vous construisez une ville, là, vous construisez une ville, c'est pour 50 ans, c'est pour 100 ans. Donc, si au bout de 3 ans, on dit, on a oublié de vous dire, les taxes sont plus les mêmes, les péages, vous avez plus le droit, ou je sais pas quoi. À ce moment-là, vous pouvez pas faire ces investissements. Donc, on a besoin de cette stabilité, on a besoin de ce modèle économique pour pouvoir lancer des expérimentations à grande échelle.
Mais votre R&D aujourd'hui, elle se concentre sur quoi?
Alors, parlons par exemple d'innovation et de futur de la cité. Un des problèmes qu'on peut avoir pour les cités très denses, c'est comment est-ce que j'amène une quantité massive d'électricité au cœur de la cité et que j'ai pas besoin de prendre 2 hectares pour faire une énorme sous-station électrique en plein centre quand en fait ce que je veux c'est mettre une place, une statue, une fontaine, pas une sous-station électrique. Donc notre solution, c'est qu'on a développé les câbles superconducteurs. Dans un câble superconducteur, c'est un câble où sur quelques millimètres carrés, vous allez faire passer une quantité quasi infinie de courant parce qu'il y a rien qui résiste, le courant passe sans aucune résistance.
Ça, c'est Nexans. C'est la R&D de Nexans.
Ça, c'est la R&D de Nexans. Et ça, pour la première fois, ça marche en grandeur nature. C'est-à-dire que dans une ville à Essen, en Allemagne, on part et le câble, sur 10 km, il envoie l'électricité au cœur de la ville, il part de l'extérieur. Donc, vous pouvez garder vos infrastructures sous station électrique à l'extérieur de la ville. Ça ne mange pas du terrain de la cité. Et puis, vous amenez toute la quantité d'électricité que vous voulez en plein centre de la ville. Et aujourd'hui, ça marche grandeur nature et c'est l'innovation Nexans.
Le marché du câble, oui. On va dire ça comme ça, c'est 120 milliards d'euros, c'est ça, oui. si je ne me trompe pas. Le champion mondial en a quoi? 6, 7 oui. Ça veut dire que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément, du coup, y avoir de la concentration?
Ça veut dire que le secteur du câble dans son ensemble doit pouvoir se consolider à un moment ou à un autre, mais de façon ordonnée, et puis en préservant l'offre aussi pour les clients. C'est-à-dire qu'il faut voir, les clients doivent avoir accès à une offre diversifiée, plusieurs clients, mais il faut que les gens soient forts, et soient forts dans les domaines dans lesquels ils sont forts. Nexans n'a pas vocation à faire tous les câbles dans tous les pays du monde pour tout le monde. Donc on n'est pas boulimique. En revanche, dans ce qu'on fait, on veut vraiment être très très bon. Et donc on a des spécialités, on a parlé tout à l'heure des câbles sous-marins, je vous ai cité le câble superconducteur dans lequel on est probablement les seuls au monde à pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. On a d'autres spécialités, on a les câbles aéronautiques par exemple, on a les câbles les plus sûrs, les plus fins, les plus légers qu'on peut mettre dans un avion. Et donc dans un avion, à chaque fois que vous prenez un Airbus pour voler de France à où vous vouliez, ce sont des câbles Nexans qui assurent votre sécurité. Donc il y a des domaines dans lesquels on a vraiment un savoir-faire très fort. Et ce qu'on veut là-dedans, c'est se développer et globaliser sur ces savoir-faire-là.
Mais sans être boulimique, est-ce que vous envisagez dans les mois qui viennent, les années qui viennent, de la croissance externe?
Alors, dans les mois qui viennent, non. Parce que dans les mois qui viennent, on est concentré sur l'amélioration de notre profitabilité. On veut vraiment que nos activités, celles qu'on a, on les soigne et on les renforce et qu'on les rende soutenables pour le futur. Et puis une fois qu'on aura retrouvé une vraie capacité de financement, à ce moment-là, pourquoi pas, effectivement, on pourra reprendre de façon ciblée sur les métiers sur lesquels on veut vraiment être les champions, de faire de la consolidation.
Vous avez déjà des proies ?
Non.
Aucune ?
Aucune.
En tout cas, vous ne me direz pas.
En tout cas, je vous dirai.
Merci beaucoup d'avoir... Non, un dernier mot quand même. Oui. Les choses se sont apaisées au niveau de l'actionnariat, parce que ça a été un peu compliqué.
Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, ça marche très très bien. On a un conseil qui est absolument en support et un actionnariat qui est en total support. J'ai des relations avec nos actionnaires qui sont vraiment excellents.
Merci beaucoup Arnaud Poupart-Lafarge, donc le directeur général de Nexans, pour vos explications.